Et voilà, c'est l'heure de l'émission La Vertitude des Choses, comme tous les mercredis de 13h à 14h. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Alors tout d'abord, on va parler du collectif du Poil à Gratter. Ils sont à mes côtés et oui, on va se dire bonjour. Bonjour Florence.
Salut Aurélien.
Voilà, et bonjour Anna.
Bonjour Aurélien.
Vous êtes obligé de dévoiler votre identité aujourd'hui, voilà, après tant de semaines où on vous a écouté sur différents reportages. Alors comment on va s'organiser? On va passer un second reportage que vous avez réalisé sur la navette dans le plateau des Mille Vaches. Peut-être rappeler un petit peu l'expérience vite fait, puisque après on prendra une demi-heure en deuxième partie d'émission. Mais peut-être rappeler un peu le cadre de votre démarche. Vous êtes allé dans le Limousin, c'est ça? C'est loin le Limousin d'ici?
Oui, on est allé dans le Limousin, donc sur le plateau de Mille Vaches. Où finalement c'est un plateau qui fourmille de plein d'expériences un peu alternatives, enfin c'est un grand mot alternatif, mais d'expériences sur des organisations du travail un peu horizontales qui pratiquent l'autogestion. Et donc la dernière émission, c'était sur la navette, une scope qui promeut l'économie sociale et solidaire. Donc voilà.
Un collectif de, comme vous le dites sur votre audioblog, un collectif de rédacteurs au service des associations et qui œuvrent donc pour ce champ de l'économie sociale et solidaire. Vous avez exploré plein d'autres domaines. Alors finalement, pourquoi ce lieu est autant porteur d'initiatives selon vous? C'est parce que c'est perdu, c'est loin?
Voilà. Bah, je pense que ça joue aussi effectivement, parce que par exemple, il n'y a pas de supermarché juste à côté, donc ça demande aussi une autre organisation au niveau de la réflexion autour de comment on mange aussi, par exemple. Et finalement, ça amène aussi à une solidarité peut-être un peu plus forte. En fait, on dit qu'il y a eu trois périodes d'ailleurs d'arrivée. Et on dit qu'il y a eu trois périodes justement d'arrivée de personnes sur le plateau et qui étaient porteurs justement de vouloir refaire sens en collectif, de repenser un petit peu les choses différemment que ce qu'on peut avoir en ville où on fourmille de publicité, d'agression un petit peu visuelle et capitaliste. Et du coup, ça permet de penser les choses différemment.
Alors, si on rappelait un peu ce que vous avez fait, il y a énormément de choses, court-circuit, au cas où vous auriez justement un court-circuit et que vous ne vous souveniez pas de ce que vous avez fait. Donc, peut-être un petit rappel aussi de cette ressourcerie. Pareil, donc, tout se passe un peu. Alors, c'est vrai qu'on a souvent parlé ici dans cette émission. Voilà, j'ai diffusé vos reportages. On ne se rend pas bien compte comment ça se passe concrètement. C'est éclaté sur plusieurs lieux. Il y a une concentration parfois. Voilà, comment ça se passe quand on arrive sur le plateau des Mille Vaches? Racontez-nous un peu, quoi. Faites-nous rêver des montagnes, des chemins de randonnée.
Sur le plateau, on est un peu désarçonné parce que ouais, c'est plein de petites routes sinueuses, énormément de sapins. Nous, on a découvert un peu, surtout un endroit précis qui s'appelle Faux-la-Montagne, où il se passe énormément de choses. Voilà, il y a beaucoup de structures qui se sont montées, mais qui sont montées aussi autour d'Ambiance Bois. Ambiance Bois, c'est la première émission qu'on avait faite. Et c'est vrai que ça a donné cette énergie à d'autres. Et court-circuit, pour revenir sur l'émission dont tu parlais tout à l'heure, c'est justement des jeunes qui sont venus et qui sont inspirés aussi de ce qui s'était passé à Ambiance Bois en disant qu'est-ce qu'on peut faire nous en fait quelque part. Et il y a à peu près un an je crois qu'ils ont monté cette ressourcerie avec à 4-5 avec tout plein de valeurs qu'ils essayent de mettre en œuvre et de volonté d'autogestion aussi quoi. Donc c'était intéressant d'aller les rencontrer, de voir quelles étaient la démarche, comment est-ce qu'on met ça en place, enfin qu'est-ce qui se passe concrètement, parce qu'entre l'idée et puis la réalisation, il y a aussi des fois un petit écart, et sentir ça, c'est assez chouette.
Donc après, apparemment, donc ancienneté, puisque je regarde Anna, il y avait Ambiance Bois qui existait depuis longtemps.
Depuis 25 ans, en fait. Voilà. Je pense que c'est vraiment l'entreprise qui a donné le goût à plein de gens d'essayer l'autogestion de la même façon.
Et puis la ressourcerie donc est assez nouvelle. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une effervescence, il y a un intérêt et il y a un intérêt pour la pratique de l'autogestion, quel que soit finalement le domaine. C'est un peu ce que vous avez pu.
Ouais, l'autogestion collective, c'est-à-dire il y a beaucoup de lieux en fait où les gens vivent ensemble. Il y a aussi Ambiance Bois, c'était ça aussi au départ. C'est une communauté. Comment est-ce qu'on expérimente aussi un lieu de vie ensemble? Quand est-ce qu'on prend des repas ensemble? Comment est-ce que ça s'organise et comment on repense le travail ensemble aussi quoi. Et c'est vraiment ça qu'on a découvert, plein de lieux différents où on s'organise quoi.
Facile assez chouette, justement ouais. De trouver sa place quand on arrive comme ça en tant que jeune reporter et qu'on veut valoriser un peu ce qui se passe là-bas. On sait ce que c'est, il y a des collectifs, ils fonctionnent, voilà. Du coup, ça, ils ont ouvert les portes facilement. Voilà, on peut aussi parler de cet envers du décor puisque on les sollicite sur un temps aussi sur lequel ils sont peut-être sur d'autres activités.
Oui, ils ont été plutôt accueillants, en fait. Hein. Que ce soit l'entreprise Ambiance Bois ou les gens de la ressourcerie court-circuit ou encore les gens de la navette, ils ont vraiment pris le temps de nous expliquer comment ils fonctionnaient, parce que je crois qu'ils ont le... Finalement, c'est pas des communautés fermées, ils ont envie de, aussi de faire découvrir de comment ils fonctionnent, tout en montrant, tout en idéalisant pas la chose, plutôt en nous montrant qu'en tâtonnant et en fonction des personnes avec qui ils sont, ils travaillent, ils arrivent toujours quand même à avoir une certaine horizontalité. Donc, pas de chef, ouais. Des décisions collectives. Voilà,
c'est ce qui ressort évidemment aussi de tous les reportages que vous avez faits. On redonnera le lien du blog en fin d'émission. Mais voilà, on sent aussi cette... voilà, il n'y a pas de calcul, hein, ils vous ont ouvert la porte. On parle librement de tous ces domaines-là. Et le second volet justement du reportage sur la navette s'inscrit évidemment dans cette logique-là. On reparle d'économie sociale et solidaire. Hein, c'est la première question de ce reportage. On recadre un peu tout ça. On va l'écouter. Hein, quand même. Avant, on va se faire une pause musicale que l'on doit à Bok Lang, d'ailleurs, qui sera au Tribu Festival, non pas au Tribu Festival, au Human Beatbox Festival. Tout ça, ça se passe avec la bouche. C'est pour la précision, parce que vous allez le voir, c'est plutôt bien tourné ce morceau-là. Ça s'appelle Enjoy the Risk. Ensuite, on écoute le reportage fait par le collectif du Poil à gratter, hein, qu'on représentera tout à l'heure parce qu'il manque un dernier membre qui va pas tarder à arriver. Et voilà, puis on sera plutôt bien dans les temps et il sera, je pense, à ce moment-là 13h40. Mais pour l'instant, il est 13h10 sur les ondes du 102.4. On écoute Bok Lang avec le titre Enjoy the Risk, extrait de l'album Acousmatique.
Right ways. Adios.
Moi, j'aimerais revenir juste un petit peu sur l'économie sociale et solidaire. Il me semble, moi, que c'est une notion qui est pas mal galvaudée actuellement, un peu comme le développement durable, des espèces de super concepts que tout le monde essaie de reprendre un peu à sa sauce pour se donner une bonne image.
Ouais.
Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous faites un travail justement pour donner du sens à ce concept-là?
Un travail pour donner du sens
Alors, il y a un enjeu politique, je crois. Enfin, chacun a son analyse là-dessus, mais moi, je suis de ceux qui pensent que c'est pas mauvais que ce terme existe, qu'il émerge. Maintenant, j'en connais aussi les limites pour les fréquenter dans tous les sens du terme. Parce que quand je vois le mouvement des entrepreneurs sociaux, par exemple, sont-ils de l'économie sociale ou sont-ils pas du greenwashing, mais l'équivalent pour l'économie sociale.
Vous pouvez expliquer ce que c'est les entrepreneurs sociaux?
Les entrepreneurs sociaux, c'est un mouvement qui s'est monté il y a 2-3 ans, qui a en fait une stratégie d'approche des entreprises capitalistes, de se faire reconnaître, y compris par le MEDEF ou des gens de cette sorte, pour faire de l'entrisme et dire faire exister l'économie sociale dans un environnement plus large. Alors ils ont fixé des critères beaucoup plus souples, on va dire, que ceux qui caractérisent plus ou moins l'économie sociale, et notamment ils ont fait l'impasse sur tout ce qui est le collectif. C'est-à-dire que autant ils donnent de la place au projet qui doit être un projet orienté vers l'intérêt général et des choses comme ça, ils peuvent donner aussi de la place à la rémunération qui doit être raisonnable, enfin donc des choses comme ça. Mais en revanche, c'est des projets d'entrepreneurs, c'est-à-dire de personnes et de personnes individuellement. Et donc, c'est vrai que tout ce qui nous intéresse, nous, alors plus particulièrement dans l'économie sociale, c'est-à-dire l'aspect collectif des initiatives, est complètement gommé dans un mouvement de ce genre, au motif que ça fait trop peur aux entreprises desquelles ils veulent se rapprocher, ou au monde politique duquel ils veulent se rapprocher, et d'autre part que ça ne correspond pas vraiment à leur tasse de thé aussi, hein, il y a aussi ça. Mais c'est notamment porté par un gros groupe qui s'appelle le groupe SOS, qui a été créé par un travailleur social il y a pas mal d'années autour de la lutte contre les exclusions, et particulièrement pour le travail avec les personnes en situation de dépendance par rapport aux drogues au départ, puis qui a étendu son influence. Et ce mec, qui est un espèce de leader charismatique, a su aussi aller embaucher des gens qui sortaient des grandes écoles et tout ça, et monter un système qui est assez, qui est très intelligent, on peut même dire, mais avec une idéologie qui est un peu une idéologie de winner, de gagneur, de voilà, il faut que les meilleurs éléments sortent et s'expriment, et c'est eux qui vont tirer l'ensemble des gens. Nous, on serait plutôt, on est dedans, quoi. Hein, pas comme un poisson dans l'eau, faut pas exagérer. On n'est pas des maoïstes. Enfin, je crois pas.
J'ai pas remarqué.
S'il y a une chose, ça serait plutôt pousser que tirer, je ne sais pas. Enfin, mais c'est vrai que c'est. Et puis de toute façon, l'idée, c'est de l'enjeu, c'est de travailler ensemble, de travailler collectivement et d'arriver à gérer justement la prise en compte de tous les avis et toutes les positionnements des uns et des autres, quoi. Donc voilà, l'économie sociale, c'est vrai, ça va des entrepreneurs sociaux de ce type, en passant par le mouvement des coopératives, un certain nombre d'associations, et puis ça va jusqu'aux entreprises de l'autogestion. Mais c'est un concept très mou, hein. Il y a quelques éléments de définition qui cadrent un petit peu les choses. La non-lucrativité, en principe, justement, l'action collective...
Des petits points de gouvernance aussi qui remontent un peu, une espèce d'élargir la démocratie, d'être moins sur une hiérarchie rigide et cloisonnée. Mais bon, c'est déjà un petit plus.
Est-ce que ça fait un mouvement pour autant?
Je ne sais pas. C'est ça, c'est difficile de passer, de parler de mouvement de l'ESS parce que c'est une espèce de galaxie nébuleuse. Il y a des gens qui s'y raccrochent, qui s'en revendiquent et des fois tu les regardes, tu dis mais qui sont-ils ? On n'a pas la même façon de voir, on n'a pas la même conception. Mais en même temps, c'est vrai que ce que dit Adin, c'est pas faux. C'est intéressant que tout le monde s'en empare parce que ça porte la discussion sur certains sujets qu'on n'abordait jamais jusqu'à présent. Quoi. Il y a des départements qui montent des plans de développement de l'ESS alors qu'il n'y a pas si souvent, ils rêvaient que d'une chose, c'est qu'il y ait une entreprise à 3000 salariés qui s'installe sur leur machin, sur leur territoire, voilà, quitte à ce qu'ils délocalisent dans 3 ans. Ils commencent à, ça fait quand même bouger des idées. Ça remue un peu tout ça, même si c'est galvaudé, même si c'est un peu vidé de son sens. C'est comme toutes les notions, tous les concepts un peu, pas révolutionnaires, mais un peu progressistes comme ça, qui, quand ils s'élargissent, quand il y a de plus en plus de gens qui s'en emparent, bien évidemment, ils perdent le sens d'origine pure et dure. Obligatoirement, ils sont obligés de s'ouvrir, quoi. Mais en même temps, ça fait bouger le reste. Donc, c'est pas le pire.
Il y a quelque chose d'important quand même qui reste, c'est que l'économie sociale prône que c'est pas le profit qui motive les individus. Et ça, c'est quelque chose qui reste, quelles que soient les tendances, et qui heurte vraiment, vraiment de front l'idéologie libérale qui est que l'homo economicus est au centre du mouvement et que c'est lui qui meut la société, quoi, qui fait que les gens sont intéressés par telle ou telle chose. Donc c'est intéressant d'avoir quand même cette confrontation-là, quelle que soit la manière dont elle est portée.
À mener quand même pour redonner son sens à ce terme-là, parce qu'on peut toujours se satisfaire du minima, une démocratie à minima, c'est une démocratie où la majorité l'emporte sur la minorité. Voilà, le développement durable, c'est peut-être de permettre à McDonald's d'afficher un logo verdoyant. Voilà. Alors du coup, enfin moi je sais pas, je me disais qu'il y a peut-être une lutte à mener sur ce.
Mener des luttes. Moi, je préfère y participer que les mener. En plus, c'est là, il faudrait définir aussi ce que c'est que l'intervention politique. Parce que quand on parle dans ces termes-là, ça veut dire qu'on veut intervenir dans le champ du politique.
Ça peut être une lutte conceptuelle aussi. Ça peut être...
Elle est menée, cette lutte-là, quand même, par un certain nombre de gens. Après, quelle audience il recueille. Et après, c'est une question de conviction, de pouvoir de conviction.
Ouais, voilà. Et ça, je pense que
sans tomber dans les
mouvements, ça situerait plus un niveau individuel de chaque personne, de se dire moi je veux mettre ça en avant, je veux revendiquer ça et tout. À la navette, on n'a pas réfléchi à ça, une prise de position comme ça collective sur des sujets de cet ordre. Ce qui est sûr, c'est qu'on revendique l'autogestion, on revendique l'égalité, on revendique certaines choses, on les pose fermement, et je crois que c'est déjà en quelque sorte une petite lutte de montrer. Nous, on montre que oui, c'est possible de travailler comme ça, oui, c'est possible. Et on n'est pas à faire la manche, on arrive à s'en sortir, on travaille, on se développe, tant que faire se peut. Mais pour moi, la lutte, elle va être sur certains points, par exemple, avec le Numéroscope, j'ai envie de m'expliquer un petit peu, quoi, tu vois. Après, je sais pas si je vais le faire individuellement ou si on va le faire collectivement, on n'en a pas vraiment parlé encore. Mais il y a des choses à faire, mais Je pense que c'est plus sur des points ponctuels et concrets que ça fera avancer les choses. Et puis, participer aussi à toute cette mouvance complètement vague, là, aller dire son point de vue. Comme là, la Corrèze donc, monte un plan départemental sur l'ESS. On y a été, voilà, j'ai porté la parole de la navette en disant, l'ESS pour nous c'est ça, trac, maintenant c'est intéressant ce que vous faites, et nous on veut bien y participer, dans la mesure que vous déciderez, quoi, tu vois, on va pas s'emparer de la chose et aller leur mettre des bâtons dans les roues, au contraire, ils ont une démarche qui est intéressante, ils l'ont voulu participative, on les a pris au mot, moi c'est ce que je leur ai dit, voilà. Donc on est là, ok, nous on donne notre point de vue, on ne sera pas d'accord avec tout, mais ce que vous faites, c'est bien, allons-y, c'est ne serait-ce qu'un premier pas, quoi. Même si c'est un peu, effectivement, galvaudé, un peu noyé, un peu... Voilà, maintenant, aller lutter contre... c'est comme de lutter contre des nuages, quoi. Tu vois, parce que ça arrive de partout, pour moi c'est une espèce de nébuleuse. Je ne vais pas aller lutter contre les nuages. Par contre, je vais m'y mettre un parapluie quand il pleut. Enfin, voilà. C'est... Et puis, participer à ce qui se fait localement, qui est super intéressant. Là, je trouve que c'est concret et que c'est efficace et que c'est réel. Ou nationalement,
on est allé à la foire à l'autogestion par exemple. Montreuil. On y a participé. Je sais que ce n'était pas évident parce qu'il y a eu des tirages dans tous les sens, parce que l'organisation de la lutte, justement, ça demande quand même aussi que les personnes se mettent d'accord. Et c'est assez rigolo dans les mouvements autogestionnaires, enfin, et anard. Bon, mais finalement, ça s'est fait, on y a participé, c'était bien, mais donc voilà, c'est aussi participer à ce genre de mouvement-là. Le site autogestion.com, c'est une manière de participer à ce type de réflexion et de promotion de ces valeurs-là. Après, aller plus loin, c'est vrai que c'est rentrer dans le politique un peu plus dur, et pour un certain nombre d'entre nous, c'est vrai qu'on a, au cours de notre histoire, milité dans différentes mouvances et tout ça, en s'apercevant aussi que ce n'était pas très efficace. Hein, parce que quand on regarde ce qu'on est dans l'année 2012 par rapport à ce qu'on était dans les années fin 70, je peux dire qu'on a des questions à se poser sur notre efficacité et sur ce qu'on est capable de faire. Enfin, pour ramener le monde à soi, hein, mais c'est vrai que quand même, on se dit, mais merde, on n'a pas été vraiment très efficace par rapport aux idées dont on pouvait être porteur. Quoi. Ou alors, il y a d'autres mouvements qui existent, qui sont plus profonds et qui font que les choses ne sont pas si simples que ça. Et c'est pas parce que tu promeus certaines choses que pour autant ça arrive. Quoi. C'est pas...
Mais moi, je crois plus à la construction. Comme je reviens à ce qui se passe ici, quoi. On construit en réseau, on construit quelque chose. Moi, je ne sais pas trop quoi, je ne saurais pas définir ce qu'on construit, mais on est en train de construire quelque chose. Ça commence à être reconnu, on commence à se dire, tiens, il se passe quelque chose par là, c'est marrant, c'est intéressant.
Ici, sur le territoire.
Oui, sur le territoire. Hein, c'est pas faux, la montagne. Hein, voilà. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que du coup, c'est concret, ça se monte, ça se montre. C'est valable que peut-être que pour ici, peut-être que ça peut pas être transporté en région parisienne, mais il y en a d'autres qui font d'autres choses ailleurs. On commence à se connaître les uns les autres. Là, ça devient intéressant parce que on se passe de discours, on se passe d'idéologie. On n'est pas tous d'accord, loin de là. On discute pas souvent on discute pas du fond parce que on en aurait pour des jours et des jours. On est vraiment sur du concret, quoi. Nous, on monte un truc, on essaie de monter un truc et on prouve qu'on peut monter des choses avec des sensibilités différentes. C'est quelque chose de concret pour moi. Et moi, je crois plus dans le concret que dans le discours, l'idéologie, les manifestations, les chartes, les manifestes. Comme le dit Alain, ça a été fait, ça a été refait. Et aujourd'hui, voilà. Après, on peut décider aussi de mettre tout ça clair, net, mais sur une base qui existe, quoi. Et moi, ce qui me retient ici, c'est ça, cette espèce de mouvement collectif qui n'est pas très défini, qui n'est pas centré sur une idéologie précise, qui n'a pas d'étiquette réelle. Mais voilà, on participe à un truc en lien avec des collectivités locales, en lien avec des entreprises, en lien avec des associations. Ça mélange un peu tout le monde. Pas tout à fait tout le monde quand même, mais bon. Mais voilà, c'est plus intéressant ce genre d'action-là. que n'importe quelle lutte qui serait avec un...
idéologique, avec des...
avec un panneau, juste un logo, voilà.
Au moins, il faut que ça soit en avant. Moi, et j'aurais tendance peut-être, à, quand j'étais plus jeune, moi, à dire la lutte idéologique est très première. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est le travail de terrain qui me semble être le premier, même, et alors là je suis peut-être un peu, en, même si je pense que fondamentalement il faut aussi une lutte idéologique, mais elle doit être rattachée à du faire, à du concret, à de la, à la pratique, et pas en l'air. Quand elle est en l'air, comme ça, avec des gens qui, ça me paraît vraiment aller vers du n'importe quoi assez rapidement. En revanche, quand on peut la, la raccrocher à de la pratique et à une réflexion du coup qui peut en être du quotidien de ce qu'on fait, elle me semble plus riche. Mais bon, après, vers où on va, on ne sait pas.
Walt Disney présente Zorro.
Française, Français de métropole et d'outre-mer. Je vous souhaite une bonne année. Et je souhaite en votre nom bonne année à la France. Seule l'histoire pourra dire, avec le recul du temps, la trace laissée par l'année qui s'achève. Mais chacun sait déjà que 1981 aura été l'année du changement.
Françaises, Français, cette année c'était très bien, l'année prochaine ça sera pire. Eh oui, mesdames, messieurs, le pays va mieux que l'année prochaine.
Walt Disney présente Zorro.
Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir.
Je ne vous décevrai pas.
Je propose de redonner du pouvoir d'achat.
Je ne vous trahirai pas.
Je propose de gagner davantage en travaillant plus.
Je ne vous décevrai pas.
Plus de croissance, donc plus de travail et plus d'emploi.
Un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Vincent qui veut dire Zorro.
Vous ne dites rien, tant mieux. De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Et rappelez-vous que si la Gestapo avait les moyens de vous faire parler, les politiciens d'aujourd'hui ont les moyens de vous faire taire. J'entends de droite et de gauche dire « La droite est nulle, la gauche est nulle, je vote nul ». Je voudrais rassurer les peuples qui meurent de la famine dans le monde. Ici, on mange pour vous. Et qu'ils prennent patience, les pauvres sont indispensables. La preuve, les Américains en ont. C'est quand même pas par snobisme.
L'enjeu de cette campagne, c'est la France.
Une France du travail, du mérite, de l'effort, de l'initiative, de l'entreprise, de la diversité.
Une France de la sécurité pour tous.
Une France de la justice, où l'argent sera remis à sa place, qui est celle d'un serviteur et non d'un maître.
Une France de la solidarité. Aucun des enfants de la nation sera laissé de côté.
Une France où le droit de chacun s'appuiera sur l'égalité de tous.
Voilà le choix qui vous attend.
Rassemblons-nous. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Vive la République et vive la France.
Le mois de l'année où le politicien dit le moins de conneries, c'est le mois de février parce qu'il n'y a que 28 jours. Et vous savez qui y a pire ? Les hommes politiques, je vais vous faire un aveu, ne sont pas bêtes. Vous vous rendez compte de la gravité ? Ils sont intelligents, c'est-à-dire tout ce qu'ils font, le font exprès. Ils y réfléchissent, ils y pensent. Parce que vous comprenez, si c'était des cons, ça irait tout seul, on dirait, bon, bah, c'est des cons. Non. Les présidents et les dirigeants des pays qui ont laissé crever l'Afrique, l'Amérique du Sud et bientôt les Indes, c'est des gens qui le font exprès. Et vous savez qu'il y a pire. Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent. C'est pire, ça confirme. Ils ont beau faire ceux qui croient pas ce qu'ils disent, ils le répètent tous les jours à la télé, dans les journaux. Vous savez que les hommes politiques et les journalistes ne sont pas à vendre, hein. D'ailleurs, on n'a pas dit combien.
Oui, je sais, j'ai tendance à ouvrir ma gueule un peu trop fort. Mais ça tient à ce que jusqu'à 20 ans, j'ai cru que je m'appelais Silence.
C'est à nous aujourd'hui de savoir comment on occupe l'espace public.
La rue, elle est à
nous. Le gouvernement et les partis officiels, d'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, nous ne donnerons pas cette parole et c'est à nous de savoir comment faire entendre notre voix.
Il ne faut pas se battre avec leurs outils à eux, parce que ceux qui les ont inventés, c'est leurs règles du jeu, c'est eux qui les maîtrisent. Et si tu veux être sûr de perdre un jeu, joue avec celui qui a inventé la règle.
Chacun sa base, on oublie la lutte humaine. Colonisation trop subtile. Si je lutte contre la machine, pourquoi utiliserais-je les règles? Apartheid de social et culturel. Le changement ne viendra pas d'en haut, on l'a compris. La guerre aux pauvres est déclarée. Nos institutions ne sont qu'au service de l'ennemi. Arrêtons de coopérer, arrêtons de coopérer.
On a en face de nous des gens qui sont pas dans la même volonté d'arranger les choses.
Ayons confiance dans notre capacité à créer des choses nouvelles.
La vie de ceux que j'aime, elle est en danger, t'as vu? Parce que quand la police, elle est supposée nous protéger, qu'est-ce qui nous protège d'eux? Personne.
La chasse à l'étranger voulue par Nicolas Sarkozy et son gouvernement s'accélère. Cette politique n'est qu'un copier-coller de celle de l'extrême droite.
Ça expulse des familles, des familles. De plus en plus de répression. Des infos se resserrent, de plus en plus de répression. Caméras de surveillance, de plus en plus de répression. Réapproprions-nous nos vies. On a besoin de créer de nouvelles vies.
C'est visé à un système qui soit horizontal, donc tout le monde aurait du pouvoir sur sa vie.
La politique se la réappropriait, la parole se la réappropriait, la rue se la réappropriait, les maisons se les réappropriaient, se réappropriaient tout.
Désobéissant, désobéissant, fasciste institutionnel, désobéissant, arrêtons de coopérer, désobéissant, on est la force de leur machine, désobéissant, le changement viendra d'en bas, d'en bas.
Ce qu'il faut, c'est réinventer son métier.
On doit comprendre que pour se défendre, il faut se rassembler. Mais il faut se rassembler, il faut avoir confiance en soi. Il faut croire en soi.
Surtout, ne jamais penser qu'on est isolé. Parce qu'on est connecté, on est des millions.
Construire quelque chose par l'autre. C'est pas qu'en France, tu vois. C'est partout dans le monde la même. Parce que c'est partout dans le monde le même système de merde.
Il n'y aura pas de changement si la forme ne suit pas le fond. Si nos méthodes d'organisation restent les mêmes, on reproduira les mêmes erreurs.
C'est vrai que nous, c'est un peu ce qu'on constate et qu'on apprécie ici, de voir qu'il y a un réseau justement de personnes qui font, qui sont dans l'action, mais qu'il y a aussi une connexion. Et on le voit par exemple, par rapport à nous, à notre région, on va y avoir des actions, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait de connexion comme c'est en train de se mettre en place ici, et que ça fait la richesse aussi oui. De ce qui se passe sur le plateau, quoi, ouais. Ce que tu disais. Ouais, je sais pas. Oui, vous êtes un peu des pionniers sur le plateau par rapport à ça, j'ai l'impression. Sur le réseau qui se met en place.
Oui, il existe depuis un bon moment, le réseau. Il s'est mis en place il y a 25 ans. En gros, il est né des premiers néo-ruraux qui sont arrivés ici, qui ont décidé de s'installer et qui ont décidé de travailler autrement, de faire les choses autrement et de faire les choses ensemble. Donc ça fait bien 25 ans de boulot qu'il y a derrière tout ça quand même. C'est des choses qui se montent pas parce qu'on le décide. C'est des choses qui se montent parce qu'il y a une envie collective aussi de le faire. Comme le dit si bien Christian, on fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Si les gens veulent pas, tu ne fais rien, quoi. Donc les premiers qui sont arrivés ici ont commencé à construire des choses, qui ont appelé d'autres gens à venir pour participer à d'autres constructions, à amener leurs pierres, à amener leurs petites idées, à amener leurs projets. Des fois, ils sont arrivés avec un projet tout à fait individuel ou fermé, et puis ils se sont raccrochés parce qu'ils ont trouvé des connexions, des intérêts et des points communs. Ça s'est fait un peu comme, je sais pas... C'est pas quelque chose qui est décidé d'avance. Je pense pas que quelqu'un un jour s'est dit, bon voilà, sur le plateau de Mille Vaches, moi je vais lancer ce truc-là qui va faire ci, et après je vais faire venir. Ça se construit vraiment comme ça, de façon naturelle, avec des guillemets et des pincettes, parce que je sais pas ce que c'est, mais la nature. Mais voilà, c'est une espèce de dynamique qui marche. Ça veut pas dire qu'elle marchera toujours, mais elle fonctionne. D'autres gens arrivent, ça attire, c'est attractif. Ils ont envie.
Oui, nous on est arrivés.
Par exemple.
Parce que Ambiance Bois était là. Et qu'on avait rencontré Ambiance Bois dans des rencontres du réseau Repas. Et que c'est à partir de ces rencontres-là qu'on est venu ici. Et on s'est vraiment explicitement installés ici à cause d'ambiance bourgeoise.
On a eu exactement la même formule hier.
Ouais.
Pourquoi vous êtes là ? C'est à cause, c'est pas grâce, hein, c'est à cause
d'ambiance bourgeoise. C'est de leur faute d'aller là-bas.
Ouais, c'est de leur faute.
Non, mais c'est pas de leur faute, c'est de leur fête.
De leur fête, oui.
C'est bien parce qu'ils sont là et qu'ils agissent et qu'ils font des choses que... du coup, ça donne envie de venir ici plutôt que d'aller ailleurs. C'est, voilà. Mais il y en a d'autres.
Oui, il y en a d'autres. Et donc, reconstruire ça ailleurs, ça, quand il y a déjà des trucs, et ça demande vraiment des gens motivés qui tissent les liens. Et après, les choses se font d'elles-mêmes. Quoi. Voilà. Après, créer ça de toutes pièces sur un territoire où il n'y a pas de ferment, il faut y aller quand même. Quoi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible. Des fois, il suffit de pousser un peu et ça part tout seul. Il n'y a rien de décidé d'avance. Il n'y a pas de recette, encore une fois. Tout dépend vraiment du territoire, des gens, des gens en place, des gens arrivent, de l'histoire.
Des modalités, du patelin, enfin, du
plein de trucs, quoi. C'est vraiment un mélange de...
Et est-ce que vous pensez qu'au niveau du... Je sais pas moi, du Limousin... J'ai vu que le slogan du Limousin, c'était « Oser la différence ».
Oui,
c'est ce qui est marqué sur le slogan. Je me questionne, je m'interroge, je me dis...
Manger des pommes.
Ouais, les slogans, ça reste des slogans.
Mais est-ce qu'en Limousin, il y a quand même... moi, je connais très peu. Hein, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose... une politique d'intégration particulière ou quelque chose qui va quand même aider les gens qui vont venir ici à s'implanter et puis à amener à bien leur projet, peut-être plus qu'ailleurs.
Oui, enfin, moi je vais te dire mon point de vue à moi, je peux pas t'assurer qu'elle soit juste et vraie. Moi, quand je suis arrivée ici en 2007, j'étais assez étonnée de la participation du conseil régional à la politique d'accueil et d'installation. Voilà. J'ai été assez étonnée de leur ouverture aussi. Leur ouverture d'esprit par rapport à certaines associations qui obtenaient des aides importantes sur des projets qui, moi, j'aurais presque pas osé les défendre. Quoi. Tu vois, d'après ce que je sais, la région Limousin a une politique d'accueil des populations quand même qui date d'un certain temps. C'est pas un truc nouveau. Aujourd'hui, il y a plein de régions qui s'y mettent. Mais j'ai l'impression, hein, je dis bien, que ouais, effectivement, le conseil régional est un peu pionnier dans le fait... de faire venir des gens et de les aider à s'installer. Quand je suis arrivée ici, moi, ils proposaient une formation, avoir son projet en Limousin, je ne sais plus, un titre comme ça. C'était entièrement gratuit, où tu avais trois fois une semaine de formation, entre guillemets. Alors, c'était, voilà, tu avais un projet d'installation, et tu étais avec un groupe d'autres porteurs de projets et des animateurs. Tu réfléchissais à ce que, oui, est-ce que j'ai bien raison de faire ça ? Est-ce que c'est viable ? Est-ce que le Limousin, alors il te mettait en contact avec des gens qui pouvaient te parler justement de ce que c'est de vivre ici ? Comment ça se passait ? Toi, tu devrais aller voir telle association parce qu'ils sont exactement dans ton créneau et ils pourront te donner des billes. Enfin voilà, ils essayaient comme ça de mettre les gens en situation, en réseau. Et de la part d'un conseiller régional, moi, je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme démarche, quoi. Après, bon, je suis arrivée sur le plateau, parce que moi, de toute façon, je voulais venir ici. Et ils m'ont mis en lien avec des gens, et j'ai mis le doigt dedans, et ça a été tout seul après, quoi. Mais effectivement, moi, l'impression que j'ai, c'est que, oui, ils financent des choses que je n'ai pas vues financer ailleurs à la même époque. Maintenant, ça se fait plus, mais... oui, j'ai trouvé que le Limousin était un peu une région particulière là-dessus. Je ne sais pas si j'ai complètement raison. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un petit virage. Au moment où tout le monde s'y met, il se peut que le Limousin prenne un virage et lâche un peu l'affaire. Mais bon, et particulièrement en zone rurale, je dirais. Ce n'est pas évident de soutenir les actions d'installation en zone rurale. Et eux, quand même, ils l'ont fait sur le plateau. On ne peut pas dire que le conseil régional ne soit pas là, quoi. Encore aujourd'hui. Ils financent, ils l'aident. Il y a de plus en plus de régions qui se sont rendues compte que ce n'était pas les grosses entreprises, encore une fois, qui allaient sauver leur territoire, mais bien la petite économie locale, le petit commerçant, le petit plombier, le petit artisan, le petit artiste, même tout court. Voilà, c'est ça qui fait la vie. Et qu'un tissu économique comme ça de base permettra justement après d'accueillir des entreprises un peu plus importantes et de faire de l'échange commercial un peu rentable, quoi.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle.
Merci.
Merci
beaucoup.
Ça va, vous en avez assez?
Ouais,
bon, là, c'est cool.
Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle Révolution Permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, on va l'écouter cette chanson. Et voilà, ça y est, ça se termine. Vous êtes bien à l'écoute du 102.4, l'émission La Vertitude des Choses. Aujourd'hui, voilà, j'ai l'honneur de recevoir le collectif du Poil à Gratter. Ça y est, ils sont au complet ou presque, puisqu'ils vont nous expliquer qu'ils sont bien plus que ça. Je vais leur demander de bien se rapprocher du micro quand ils vont répondre à ma question, puisque ça va commencer maintenant. Alors j'ai failli faire un jingle un peu comme...
La Vertitude des Choses sur Radio Campus, le 102.4.
C'était aussi pour un peu... Hein, vous demandez peut-être un bref historique de votre collectif, hein, puisqu'on en parlait en antenne tout à l'heure. Si on parlait de l'historique du collectif, alors expliquez-nous un petit peu, voilà, finalement, comment vous avez commencé cette idée de projet radio, comment vous vous y êtes pris, et qu'est-ce que vous avez eu envie de dire finalement, à travers tous vos reportages dont on va reparler dans quelques instants. Loïc vient d'arriver. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Ouais, ça marche.
Donc alors, comment on a commencé à la base? Je pense que le dénominateur commun de tout le monde, c'est le fait de vouloir, d'une part, rendre la parole aux gens sur des questions qui nous semblent importantes. Voilà. Et donc, il y a plusieurs, finalement, on est de plusieurs horizons différents. Quelques d'entre nous ont fait des études de sociologie, par exemple. Voilà, donc en fait, on s'est rassemblés, on était, je sais pas combien, 7, 8 au début.
Ouais, à peu près, quoi. Une petite dizaine.
Voilà, une petite dizaine. Et chose très bizarre, alors, on a commencé sur un sujet très original, qui était le salon de l'érotisme. Voilà, il y a un an à Besançon, il y a le salon de l'érotisme, et on s'est dit, bah, allez, on va se lancer là-dessus. Et puis, finalement, ça a été le début où on a commencé à se former sur cette émission-là. Voilà, finalement, on s'est un peu perdu par rapport à par rapport à cette émission, parce que du coup c'était un petit peu compliqué. On est arrivé à une machine à gaz qui était beaucoup trop ambitieuse par rapport à nos petits moyens du temps.
C'est un sujet compliqué, peut-être des heures d'enregistrement aussi, une volonté de parler de plein de choses aussi, et finalement, alors il en reste quelque chose.
Ah voilà.
Il en reste quelque chose. S'il nous écoute, il va être content d'écouter sa création. Alors justement, vous avez, bon, on avait diffusé, hein, je pense quand même quelques, je regarde aussi Flo et Anna, quelques émissions. Et donc là, il y a un extrait de ce premier travail que vous aviez pu réaliser l'année dernière, je crois bien, c'est ça ?
Ouais, c'est l'année dernière, et c'était pendant le salon de l'érotisme. Il y avait plein d'envies différentes, hein. On a fait des micro-trottoirs, il y a eu des lectures, et donc Florent a fait un petit passage.
Une chronique.
Une sorte de chronique sur le salon de l'érotisme.
Et on va l'écouter tout de suite, et après on se retrouve. Alors je sais pas trop combien de temps ça dure, ça va être un peu la surprise.
Ouais. En fait Stéphanie, quand tu les regardes, tu crois qu'on est qu'un. Tu vois, même si, oh mon Dieu, tout ce monde, on est qu'un. Tu vas bien? Il est où déjà ton coco? Lève le bras. Ah, c'est dans la merde.
Ah oh, excusez-moi.
J'ai 89 ans. J'aime la jeunesse. J'aime tout.
Vous voulez pas me lâcher les testicules, s'il vous plaît?
Faites pas de soucis, mon garçon.
Merci. Vous m'avez tous demandé de dire quelque chose sur le salon de l'érotisme à Besançon. Je me suis demandé d'abord pourquoi. Puis rapidement, je me suis dit que c'était à cause de mon génie littéraire. Je voudrais remettre les pendules sur leur rail. D'accord, je peux analyser avec finesse n'importe quel phénomène. Mais j'en ai rarement envie. Je peux en rendre compte avec persuasion. Mais j'en ai la motivation qu'épisodiquement. Ces deux noms féminins, envie et motivation, associés aux adverbes rarement épisodiquement, ainsi qu'à la conjonction « mais », sont au centre de ma vie et illustrent très bien la difficulté d'aboutir qui est la mienne. Je suis capable de beaucoup, mais je réalise peu. Oui, je suis un génie, mais ne suis pas encore reconnu et le serai sans doute jamais. Pourquoi ? Parce que seul le génie travaillé est reconnu. Et encore, lors de leur première édition, on avait jugé sans intérêt Rhinocéros de Ionesco et En attendant Godot de Beckett. Alors si même les génies travailleurs ne sont pas reconnus, comment un brillant fainéant comme moi aurait-il un jour voix au chapitre ? Pourtant je suis capable d'écrire un tas de choses intelligentes. Je pourrais même être drôle. Je le sais, on me l'a déjà dit. J'aime écrire, mais je ne cherche absolument pas à sortir de mon statut de génie peu productif, donc moyen. Je me situe au comble du paradoxe. Je suis un génie moyen, voire plutôt médiocre. Je sens pourtant que dans un avenir proche, je l'assumerai publiquement. Si je suis un condensé de génie, c'est aussi parce que j'ai peur d'être rasoir. Trop long. Alors bref, j'avais d'excellentes idées sur le salon de l'érotisme. J'ai ébauché quelques facéties qu'il m'aurait beaucoup plu de réaliser. Mais devant l'ampleur de la tâche, j'ai préféré recycler ma dernière lubie. Je dirais tout de même quelque chose de génialement médiocre sur cet événement municipal. Le salon de l'érotisme, c'est surtout un salon.
C'est merveilleux, on attendait voilà, la chute. Le salon de l'érotisme, alors donc voilà, c'est aussi l'idée de dire qu'on peut intégrer aussi le collectif dont vous faites partie, qui s'appelle le poil à gratter, qu'il y a plusieurs possibilités, telle une chronique qu'on vient d'écouter, et puis vous vous réunissez donc assez régulièrement pour essayer de monter vos différents reportages, peut-être aussi parler de votre première grande aventure en commun, qui était donc le plateau des Mille Vaches, on en a un petit peu parlé au début de cette émission, donc une terre d'alternatives que chacun avait l'air un petit peu de connaître, notamment à travers Ambiance Bois, cette célèbre SCOP. Et puis, vous nous avez proposé une série de reportages. Donc peut-être qu'on peut revenir un petit peu justement sur ces différents reportages que vous nous avez proposés. Le premier, évidemment, c'était Ambiance Bois. C'était il y a quelques semaines. Alors rappelez-nous un petit peu peut-être aussi comment ça s'est passé, peut-être là, au niveau de la prise de contact aussi. On parlait de la difficulté ou pas d'ailleurs d'accueillir un collectif comme ça de jeunes reporters. Et puis peut-être aussi votre ressenti quand vous êtes allé là-bas, puisqu'on peut lire des livres. Hein. Il y a un livre de référence d'ailleurs que tu m'avais prêté, Loïc. Et quand on arrive sur place, peut-être aussi parler de vos impressions. Voilà, vous étiez un peu ça confirmait vos impressions, il y avait une vraie dynamique collective, un vrai sens de l'autogestion. J'essaie de te regarder à travers les câbles, c'est pas évident.
Ouais. Alors en fait, à la base, dans le petit collectif radio, là, on était plusieurs à avoir lu ce bouquin d'Ambiance Bois et qui était vraiment hyper intéressant parce qu'il y a quelque chose de positif dans la proposition. C'était comme un peu ce qu'on a entendu avec le documentaire sur la navette, c'était pas seulement on conteste, mais on rentre dans la réalité, on se confronte un peu aux difficultés, et puis on va essayer de montrer qu'on peut travailler différemment. où j'avais été hyper séduit par ce bouquin. Et donc, en fait, ça fait un petit moment que je connais, moi, parce que j'étais allé les voir il y a peut-être bientôt 4 ou 5 ans de ça, et pour voir un petit peu, voilà, visiter un petit peu la boîte et voir comment ça se passait. Je suis allé plusieurs fois depuis cet été, et là, cet été, finalement, on s'est dit, finalement, on pourrait peut-être faire un travail sur tout ce qui se passe sur le plateau de Mivage, prendre, aller voir 5, 6 groupes, 6 structures. Et donc, on a commencé par Ambiance Bois. Et donc, on a été accueillis, très bien, parce que donc, moi, j'avais un petit peu une porte d'entrée parce qu'ils me connaissaient. Et du coup, ouais, c'était assez rapide. Et pareil pour toutes les structures qu'on a rencontrées après, c'était vraiment un coup de fil. On était dans le coin, et du coup, on était de passage assez rapidement chez eux.
Elles ont du lien entre elles, toutes ces structures. Elles se voient, elles se contactent, Flo ou Anne. Ah.
Oui, en fait, on se rend compte qu'ils se connaissent un peu tous les uns des autres, comme on en parlait tout à l'heure. Ambiance Bois, je crois que c'est un peu une entreprise qui a donné le goût à plein de gens de venir, de travailler autrement, et puis de venir aussi du coup sur le plateau. Et ce qui fait que cette entreprise a fait un peu du lien donc avec la navette, avec repas. Il y a même des gens qui appartiennent à plusieurs structures.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'Ambiance Bois, au niveau du travail, ils ont un fonctionnement différent, c'est-à-dire qu'en fait ils ont le choix chacun du temps de travail qu'ils vont consacrer dans l'année à Ambiance Bois. Et donc la plupart, je crois 20 sur 22 à peu près, choisissent d'être au temps partiel, et donc ils ont beaucoup de temps à consacrer à d'autres choses. Ce qui fait qu'ils se sont impliqués, par exemple, dans un journal local. Ils ont lancé aussi Télé 1000 Vaches. Et ce qui fait que, quelque part, ça a créé aussi plusieurs petites bulles, comme ça, un petit peu à côté, où d'autres gens, après, sont venus se greffer, ont dit « Ah tiens, c'est intéressant ». Et petit à petit, ça crée un grand réseau, quoi, dont on a vu qu'une petite partie, et dont on montre qu'une petite partie, parce que en fait, on aurait de quoi revenir sur le plateau et faire encore beaucoup d'émissions pour parler de tout ce qui fourmille là-bas, quoi, tellement c'est important. Et tout ça, ça repart encore du travail, justement, du fait d'avoir ce temps libre. Ça a créé aussi ces possibilités à ceux qui avaient envie de donner un peu plus, de créer d'autres structures, et après ça tourne, quoi.
Alors qu'avez-vous retenu justement de cette expérience journalistique là-bas? Est-ce que finalement, voilà, c'est une utopie en marche? Quel mot vous mettriez dessus maintenant, avec le recul de ce travail, de cette expérience? Vous qui étiez dans les livres peut-être, et puis qui après les avez rencontrés et avez vu cette expérience en route? Donc cette expérience de l'autogestion, de l'économie sociale et solidaire.
Moi, je dirais que c'est quand même assez enthousiasmant, sans parler vraiment d'entreprises qui sont idéalisées. Parce que c'est vrai que quand on lit un livre, on a tout de suite, on se construit une image. Et là, on voit effectivement que c'est des entreprises qui fonctionnent, mais qui tâtonnent tout le temps et qui sont tout le temps dans la recherche. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils sont pas mal, ils prennent le temps de la discussion et du tâtonnement pour que ça fonctionne et que chacun ait vraiment sa place au sein d'un collectif.
Moi, je me demandais comment est-ce que ça pouvait se passer concrètement, est-ce que c'était possible, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec Anna, c'est très enthousiasmant. En fait, on peut penser le travail différemment, on peut le vivre différemment et avec plaisir. Il y a quelque chose qui se passe là-bas qui est difficilement descriptible et qui... Voilà, un autre monde est possible. C'était un peu la phrase type dont on a beaucoup entendu parler. Et quand on va là-bas, on se dit « Ah ouais, c'est vrai, c'est possible, quoi. » Et du coup, fait plaisir de voir que c'est une réalité, quoi. Mais de la décrire, c'est pas évident. On a essayé un peu avec nos émissions. Faut aller voir, quoi.
Et encore une fois, ouais, c'est vrai que c'est intéressant, je pense, que ce que disait Anna, c'est pas le grand soir, quoi. Voilà, c'est pas la dernière chose qu'on a écoutée, là, c'est la révolution permanente. Du coup, voilà, est-ce qu'on peut parler de révolution? Alors, dans une certaine mesure, je pense que oui, et dans une autre mesure, je pense que non, parce que du coup, on est quand même dans quelque chose qui est quand même assez local, qui concerne pas tous les gens qui habitent le plateau de 1000 vaches. Voilà, ça reste assez minoritaire, finalement, mais c'est suffisamment important pour qu'il y ait tout un ensemble de structures et un réseau, en fait, qui fonctionne. La deuxième émission qu'on a fait sur le réseau repas, donc repas, ça veut dire réseau d'échanges et de pratiques alternatives et solidaires. Et donc, en fait, ce réseau, il compose une trentaine de structures, dont une structure qu'on va bientôt aller voir, d'ailleurs, dans pas longtemps, qui est le le lycée autogéré de Paris, voilà, qui a adhéré au réseau il y a 2 ans, et ils viennent d'écrire un bouquin qui est super intéressant d'ailleurs, et qui montre que même dans l'éducation nationale, finalement, on peut avoir une, on peut fonctionner différemment et remettre, enfin, alors pour 2 d'entre nous, on est prof, donc on va pas cracher sur l'éducation nationale, mais on peut montrer que on peut faire différemment. Et simplement revenir sur la question du réseau aussi, il y a un truc qui me semble hyper important sur le plateau de Mille Vaches, c'est que il y a une, finalement, ça c'est un petit peu institutionnalisé, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, dans le sens où il y a une association qui s'appelle De Fil en Réseau, et en fait qui regroupe aussi pas mal de ces structures, et qui est là en soutien et en aide à des gens qui veulent être sur le plateau, qui sont porteurs de projets, qui sont peut-être un petit peu originaux, atypiques. Et du coup, il y a des, donc ces structures vont les mettre en réseau avec des gens qui sont déjà dans ces démarches-là, leur permettre d'avoir les bonnes connexions avec les institutions pour trouver du financement, des choses comme ça. Donc il y a vraiment une espèce de structure, on peut parler de structure, qui est organisée de manière à pouvoir faciliter l'installation donc de gens qui ont des idées, des projets collectifs, et de les pérenniser, parce que c'est aussi le grand défi, c'est que c'est pas seulement on vient et puis on essaie quelque chose, c'est on vient, on essaie et puis on essaie de faire en sorte que ça continue. Et ça, il me semble que c'est vraiment la chose la plus, enfin en tout cas moi ce que je ressens du plus positif, c'est que c'est quelque chose qui dure. Ambiance Bois, ça a 25 ans, là ils vont fêter les 25 ans là, cet été, et c'est vraiment, on sent voilà, qu'il y a quelque chose, une énergie qui monte, et ça c'est vraiment très, très enthousiasmant, ouais c'est vrai.
En tout cas, nous, c'est aussi ce qui nous a enthousiasmés ici à la radio, de pouvoir accueillir un collectif comme le vôtre qui a soif de démocratie, de découverte, d'alternatives et aussi d'envie de transmettre. Donc, on rappelle que, évidemment, cette émission est ouverte. Hein, vous pouvez participer, le collectif peut-être aussi, j'imagine. Hein,
bien sûr.
Je vous regarde, je ne veux pas non plus dire que vous êtes ouvert, alors que c'est peut-être pas le cas, mais si, c'est le cas. Donc on redonnera. Des références, et puis on rappelle quand même que vous avez mis vos reportages sur un blog, voilà, un audioblog d'Arte Radio, et vous pouvez retrouver comme ça tous les reportages que vous avez réalisés sur ce plateau des Mille Vaches. Maintenant, vous allez passer peut-être à d'autres types de projets, notamment Paris, c'est ça, le lycée autogéré est à Paris, ça c'est dans très peu de temps je crois.
Oui, normalement on y va en avril, on attend encore confirmation du lycée autogéré de Paris. Et ensuite, on a aussi en route la fraternelle. La Florence peut peut-être en parler un peu plus.
Bon, on peut tous en parler, je crois, mais...
Allez, vas-y, Florence.
On avait envie d'aller découvrir ce lieu un petit peu à Saint-Claude et comprendre ce qui s'y a été joué, justement, au niveau collectif au début du siècle. Et on est venu, on était quoi, 15 On est allé faire une visite guidée. On a redécouvert un petit peu le lieu. Et on a beaucoup, beaucoup de sons, donc on va bientôt vous le faire partager.
Ah, je l'apprends, donc c'est déjà fait. Vous avez déjà réalisé les...
Non, quand ça sera monté. Ah,
on a beaucoup de boulot, quoi.
Ah, vous avez, en tout cas, vous avez réalisé les sons. C'est ça que...
Voilà.
Maintenant, la période de montage va commencer.
Ouais. Exactement. Et puis, finalement, le dernier son aussi qu'on a en route, on a fait la prise de son, mais c'est pas encore monté. On allait rencontrer les gens de l'Hôtel des Villes, à Clermont-Ferrand, et en fait c'est un squat qui vit là depuis plus de 3 ans, et c'est aussi une très chouette expérience collective.
Voilà, vous l'aurez compris, c'est ces thématiques-là aussi qui vont être explorées ces prochaines semaines. Soyez à l'écoute, en tout cas, de cette émission et de ce collectif. Alors, si vous avez des remarques et suggestions à faire, je vais donner l'adresse de la rédaction, redactioncampus@gmail.com. Et puis, donc, vous pourrez aussi trouver via notre site internet le lien de ce collectif, donc Poil à gratter, que vous retrouverez ces prochaines semaines. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont revenir par ici, je les regarde en disant ça. Voilà, ça dépend d'eux, hein, ça dépend aussi de... Voilà, c'est parce que c'est pas aussi évident de prendre du temps quand c'est pas notre métier, à travers notre temps de loisir, de se retrouver à plusieurs, ça aussi c'est une réalité de la radio et du off, de ce que vous avez fait, quoi.
Tout à fait.
Donc voilà, à suivre donc ces prochaines semaines. Vous voulez rajouter un petit mot avant qu'on accueille par téléphone Claude Gouin? Je m'adresse à toi si tu m'entends, c'est bientôt l'heure de ta chronique sur la biodiversité.
Moi j'ai peut-être juste un petit truc à dire en fait sur sur la question de l'autogestion, parce qu'en fait on peut se dire mais finalement quelle grosse différence. Et moi, en fait, il y a un truc que j'ai peut-être perçu il n'y a pas si longtemps. C'est que, et justement, ça fait référence à ce que tu disais par rapport au temps. Et c'est que ce qu'on a vu par rapport à Ambiance Bois et par rapport à tous les collectifs qu'on a croisés, où du coup on n'est pas dans une relation salariale avec un patron qui nous impose un temps de travail, voilà, qu'on ne peut pas gérer. Et il me semble que c'est super important, c'est que dans ces collectifs-là, du coup, les gens se réapproprient aussi leur rapport au temps. Et voilà, je trouve ça super, super intéressant, du coup, de. Voilà, peut-être de plus en plus dans ce modèle-là pour permettre aux gens de se réapproprier bah voilà, le moment où ils vont travailler, le moment où ils vont être dans du loisir et faire des émissions de radio, par exemple, comme c'est notre cas. Voilà. Juste ce rapport au temps, je trouve qu'il me semble fondamental.
Ouais, et puis c'est voilà, ça dénote aussi que c'est le moment peut-être aussi de prendre le temps d'écouter ce monde qui bouge, hein, parce que c'est aussi ça qui est bien à travers votre expérience, c'est que nous on peut pas être partout évidemment, et on a besoin aussi de collectifs qui œuvrent voilà, dans ces champs qu'on essaye d'explorer tous ensemble, qu'on ne connaît pas forcément, donc l'économie sociale et solidaire. Le fameux développement durable aussi, hein, que vous avez évoqué dans la navette.
Désolé.
Non, non, mais c'est, voilà, je partage effectivement aussi cet avis-là. Donc voilà, ben, merci à tous les trois.
Bah, hein, merci à toi.
L'émission.
Merci,
moi, j'ai gardé un petit peu d'espace pour vous. Voilà, il est un peu plus de 2 heures. Mais merci à vous d'être venus. Et puis, ben, on espère aussi vous retrouver aux manettes, pourquoi pas, d'une émission sur les ondes du 102.4. Ça, c'est à vous de jouer maintenant.
On va voir.
Merci à vous, à bientôt.
Merci.
À bientôt. Au revoir. À bientôt.